Eh bien, dans la prière, le Seigneur m'a montré qu'il fallait vraiment que je reste branché sur Malachie, hein, parce que plus je me laisse imprégner par le texte de Malachie, plus je m'aperçois qu'il s'adapte aux besoins non seulement de notre Église, mais de l'Église universelle, de ce temps que nous vivons, qui est très très proche de ce que Malachie a vécu. Voilà. Malachie est le dernier donc des prophètes de l'Ancien Testament, c'est le dernier livre d'ailleurs, avant le Nouveau Testament, et il prophétise la venue prochaine, en tout cas 400 ans après. Voyez-vous comme quoi les prophéties, il faut faire attention quand elles concernent le temps. Très souvent, si vous recevez de la part d'un prophète un temps précis, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, sauf exception sur 1 million. Mais les prophètes ne peuvent pas estimer le temps, parce que un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Ouais. Vous voyez, si je dis 3 jours, ça peut être 3000 ans. Donc le temps, et d'ailleurs, s'accrocher au temps sur une prophétie, c'est pas bon. Parce qu'en fait, on s'accroche un peu comme une sorte de divination, hein, voilà, d'astrologie, de temps, alors qu'on doit s'attacher au Seigneur. Le Seigneur qui conduit le temps et qui décide à quel moment les choses doivent arriver, même si elles sont prophétisées. Là, c'est le cas. Dans Malachie, je prononce Malachie parce que c'est Malachie en hébreu. Malachie annonce la venue du Messie, de Jésus, sauf c'est 400 ans après. Et là, il dit, il viendra, mais avant la venue de Jésus, il y aura Élie qui se manifestera. Et voyez, même Jean-Baptiste, dont Jésus a dit que c'était Élie qui devait venir, Jean-Baptiste a nié qu'il était Élie. Comme quoi, il faut faire attention à tout ce qui est prophétie. Voyez. Il faut le prendre parce que ça encourage. Moi, j'étais beaucoup encouragé par des prophéties et je prie pour que l'Église puisse prophétiser, hein, de plus en plus. Mais ça doit être plus un encouragement qu'une sorte de règle. Voilà, Dieu a dit, etc. John Wimber, qui est là sur le dernier... la dernière partie de cette nuée de témoins, hein, qui nous ont précédés, c'est les nuées protestantes, hein. Il y a aussi d'autres nuées catholiques et orthodoxes, mais nuées protestantes, par les évangéliques, où John Wimber lui-même a été très très impressionné par certains prophètes. Et en fait, à la fin d'une période de 10 ans, il a mis tous les prophètes dehors. Parce qu'il polluait son église. J'étais dans son église à Los Angeles, et en fait, il y a des prophéties qui étaient tellement précises que dans son église, il y avait une queue d'une heure après le culte pour aller voir le prophète. Et les gens demandaient au prophète, bon, demain matin, quel est le job que je dois prendre, quelle est la voiture que je dois acheter, etc. Voilà. Vous voyez, ça s'est terminé par simplement une consultation du prophète. Et là, John Wimber a dit non, c'est Dieu qu'on consulte, c'est pas le prophète. Vous voyez, comme quoi, aujourd'hui encore, même dans la Nouvelle Alliance, eh bien, l'homme ou la femme est poussé à chercher chez les hommes, au travers des hommes, eh bien, la réponse que Dieu doit nous donner par sa parole et par la conduite de son esprit. Donc le prophète Élie est un type, et d'ailleurs c'est là que je vais vous montrer cette image, qui est la transfiguration. La transfiguration, c'est Jésus qui a emmené Pierre, Jacques et Jean, hein, avant sa crucifixion, il les a emmenés sur la montagne, c'est une colline, hein, qui n'est pas très loin du lac de Galilée, qui les a emmenés, et il y a une apparition qui s'est faite. Hein. Jésus, lui, a été transformé, transfiguré, hein, dans un corps de gloire qu'il a maintenant, hein, mais qu'à l'époque, il n'avait pas à ce moment-là. Et à gauche, vous avez Élie, et à droite, vous avez Moïse, vous avez l'étape de la loi, hein, Moïse. Et ces trois personnes, ces trois personnages, sont des types qu'on retrouve, enfin, c'est des offices, c'est des fonctions, hein, qui sont des fonctions de gouvernement, qu'on retrouve dans l'Église d'ailleurs, qu'on est supposé trouver dans l'Église. D'une part, la loi a été donnée par Moïse, et la loi est toujours valable aujourd'hui, vous le croyez? La loi, la Torah, elle est toujours valable. Il y a des parties de la loi qui sont dans le Deutéronome. Deutéronome, ça veut dire deuxième loi. Le Deutéronome, qui sont spécifiques à Israël, pour le peuple d'Israël. Mais la loi, elle est toujours valable. Les 10 commandements que Dieu a inscrits avec son propre doigt dans les tables de pierre, qui ont été déposées dans l'arche de l'Alliance, c'est la volonté de Dieu pour nous. Tu ne tueras pas, etc. Donc cette loi-là, elle est aujourd'hui encore valable. Il y en a qui y croient ? Levez la main. Amen. Donc, relisez régulièrement la loi que Dieu a donnée à Israël et nous a donnée, parce que Jésus a accompli la loi. Il ne l'a pas abolie. Il a tout accompli, mais cette loi-là est toujours valable. Donc, elle est une constante. C'est la volonté de Dieu pour son peuple qu'il a donné. C'est-à-dire, c'est les lois morales. C'est les lois morales, c'est-à-dire la morale, c'est le bien ou le mal. Et dès la Genèse, Dieu a manifesté son caractère moral, sa nature morale. Puisqu'il a dit à Adam, dès qu'il l'a créé, il a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Tu ne mangeras pas, ça veut dire que c'est un aspect moral. Ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas bien faire, le bien et le mal. Et Dieu est un Dieu moral. Et dès le départ, eh bien, il a donné cette loi-là pour, à partir de la loi, c'est-à-dire personne ne peut être pris en défaut, parce qu'il sait d'avance comment Dieu fonctionne et comment Dieu pense et comment Dieu règne. Il règne avec les lois qu'il a données. Et Élie, qui est de l'autre côté à gauche, eh bien, c'est le type de prophète. Donc ça, c'est un prophète, Moïse, c'est le prophète qui amène, qui est utilisé par Dieu pour parler de la part de Dieu, pour amener la loi, qui, elle, demeure jusqu'à la fin des temps. Et de l'autre côté, Élie, c'est un prophète qui va revenir régulièrement, parce que c'est quelqu'un qui ramène le peuple, qui se détourne de la loi pour le ramener à la loi. Donc c'est un prophète de restauration. Et prophète de restauration, il est venu, ce type d'Élie, hein, pas forcément Élie lui-même, mais ce type est venu à différentes occasions, et particulièrement au moment de Malachie, hein, où en fait il a ramené au travers de Malachie, eh bien, c'est un type d'Élie. Et ensuite après Jean-Baptiste, qui est un type aussi d'Élie. Et à la fin, ce que nous attendons, c'est le retour de Jésus. Et là, il y aura deux témoins. Et là, il y a Élie à nouveau qui est là pour rappeler la parole de Dieu. C'est un prophète de restauration, de jugement et de restauration. Et tout le livre de Malachie, c'est un livre de jugement. Dieu juge que le peuple n'est pas conforme à sa parole, mais en même temps, il restaure. C'est-à-dire qu'il dit un jour, vous serez délivrés un jour, et pour nous, ce jour-là, c'est quand le Seigneur va revenir, que nous pourrons pleinement, eh bien, profiter de sa présence. Et bien sûr, Jésus, qui est la grâce, hein, la loi et la grâce. C'est en Jésus que nous avons un sauveur et que nous avons une alliance nouvelle. Voyez-vous, Élie est parti avec le char, il n'est pas passé par la mort, Moïse non plus, sauf qu'on n'a pas retrouvé son corps, hein, on n'a pas vu partir, mais voilà. Voyez-vous, c'est des mystères, hein, mais qui s'éclairent, ils s'éclairent au travers de la parole. Et donc, le livre de Malachie renvoie à cette réalité. De ces trois personnages qui sont fondamentaux, la loi, la grâce et le jugement et la restauration. Parce qu'il y aura un jugement. Et tout le monde passera par le jugement, y compris nous, qui sommes, qui avaient accepté l'œuvre de Jésus. Mais c'est notre avocat qui va nous défendre lorsque nous passerons en jugement. Dans Luc chapitre 16, verset 16, Jésus dit « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » Ça veut dire quoi ce passage ? Ben, ça veut dire que la loi et les prophètes, hein, voyez-vous, Moïse et Élie, hein, eh bien, ont subsisté jusqu'au moment de venue de Jésus. Et avec Jésus, la loi et les prophètes se sont arrêtés ce temps-là, et il est passé par le royaume de Dieu. C'est-à-dire Dieu a régné, est venu au travers de Jésus pour régner. Et Jésus, quand il est venu, quand il a ressuscité d'entre les morts, il a été élevé et s'est assis sur le trône de David. Il est assis aujourd'hui sur le trône de David, qui règne et qui conduit le peuple. Nous sommes conduits par Jésus, qui est assis sur le trône de David dans les cieux. Et nous sommes assis avec lui. Ça, c'est aussi une réalité. C'est tout ça que nous étudions dans la théologie de l'âne, pour ceux qui le suivent. Pour d'autres qui veulent nous rejoindre, c'est toujours possible, à la rentrée. C'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment de la venue de Jésus. C'est tout à fait différent. C'est un paradigme, c'est-à-dire un modèle de fonctionnement du règne de Dieu qui est différent. Avec Jésus, avant et après. Après, c'est le règne qui est venu de Dieu. Avant, c'est la loi et les prophètes qui étaient là pour annoncer la venue de ce règne. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fin. Et la fin, elle a commencé il y a 2000 ans. Et elle va se terminer à la parousie. C'est le royaume du déjà, pas encore arrivé au travers de Jésus. Malachie, le prophète qui parle de la part de Dieu dans cette période d'exil, de retour d'exil. Hein. Il dit, le message central de ce livre, c'est de ne jamais douter de l'amour et de la bonté de Dieu. Dès qu'on commence à douter de l'amour de Dieu, ah, je ne suis plus aimé, je suis ceci, cela, on a tous des sentiments. Hein, qui nous pousse, c'est notre âme, hein, qui fluctue en fonction de ce qu'on ressent. Hein, c'est notre âme, ça. Mais l'esprit, c'est quelque chose en nous qui croit par la foi ce que Dieu dit. Et donc, ça ne passe pas par les sentiments, ça passe par l'acceptation de la parole. Eh bien, dans des périodes difficiles, on doute. Dans des périodes difficiles, on a peur. Dans des périodes difficiles, voilà, on remet en cause la bonté de Dieu, même si on ne le dit pas explicitement. Et ça, c'est un danger. Et le plus grand danger, c'est de douter de l'amour de Dieu dans l'épreuve, parce que ça ne fait encore plus accentuer notre douleur, notre souffrance de croyant. Donc, c'est, comment on appelle ça, un cercle vicieux. Voyez-vous ? Quand on rentre là-dedans, on n'en sort plus. Et parfois, on tombe dans la dépression et on a besoin des autres pour nous en sortir. Par ailleurs, ce livre, je l'avais déjà dit, s'adresse à un petit reste. Ce n'est pas tout Israël. Parce que la plupart de ceux qui ont été déportés à Babylone, ils sont restés à Babylone, malgré le fait qu'ils pouvaient rentrer. Mais parce qu'ils se sont installés dans le confort. Pourtant, c'était le pays que Dieu a donné, où coule le lait et le miel. Hein, mais ils n'ont pas cru. Là, déjà, on voit que tous ceux qui sont restés à Babylone, ils n'ont pas cru dans la parole. Et ceux qui sont venus, c'est un reste. Et même ce reste qui est venu avec Malachie, eh bien, même lui, il a perdu la foi. Donc, vous voyez, c'est ce qui nous montre notre faiblesse, ce qui montre notre vulnérabilité du croyant. Parce que même si aujourd'hui on a le Saint-Esprit, ce qui n'était pas l'époque de Malachie, même là, notre âme est toujours notre âme. On est assisté par le Saint-Esprit. Mais si nous marchons par la chair, eh bien nous sommes dans les mêmes dispositions que les Israélites qui marchent par la chair. Donc Élie est annoncé par le livre de Malachie. Et Élie est un prophète qui juge l'idolâtrie. C'est un prophète qui juge. Ce n'est pas le cas de Moïse. Moïse, il était porte-parole de la loi. Donc transmettre la loi au peuple. Mais le prophète Élie, il juge. Rappelez-vous, quand il a convoqué tout le peuple, quand il a convoqué le roi, quand il a convoqué tous les sacrificateurs de Baal, eh bien, Dieu est intervenu et il a tué 450 prophètes de Baal. Et bien sûr, ce qui a révolté, bien sûr, Jézabel, qui lui en a voulu, parce qu'il a apporté le jugement contre l'idolâtrie. Élie est un prophète de jugement, mais aussi de restauration. Il restaure. Dieu juge et restaure. Il y a les deux. Et vous savez que le jugement commence par la maison de Dieu. Allô ? Non ? Vous êtes réveillé là, ce matin ? Pardon ? Oui. Dans la parole de Dieu, il est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Donc l'Église est jugée aussi. Mais elle est jugée non pas pour la condamner, mais pour nous ramener au Seigneur. Donc n'ayons pas peur du jugement de Dieu. Ici, quand on est arrivé, le lieu était habité par des choses qu'on a dû clarifier, mais au bout de 8 ans, il y a une épée qui est apparue ici, au-dessus de nous, l'épée du jugement de Dieu. Dieu nous a jugés. Et là, c'était le chaos absolu, c'était en 98, et voilà, il y avait, c'était même pire que ce qu'on a vécu ces dernières années, c'était le jugement de Dieu. Et donc, on a passé par des temps de repentance, des temps de demander pardon à Dieu, etc., toutes sortes de choses. On a prié, on a purifié le local, etc. Et quelques années, deux ans après, il y a un jeune qui a vu la main de Dieu qui descendait et qui a rétabli la relation avec l'Église. Voyez-vous, c'était pour nous amener à de nouvelles dispositions vis-à-vis du Seigneur, un nouveau culte. Le culte, c'est très important. Et c'est pour ça que ces derniers temps, le Seigneur nous a amené Moïse aussi, qui a ce cœur de louange. Et ce n'est pas pour rien, parce que la louange est absolument capitale, parce que c'est le seul moment dans le culte, parce que là vous écoutez, mais la louange, vous participez, vous chantez, vous glorifiez le Seigneur. Et ça, c'est un temps absolument capital. Et si ce temps-là n'est pas vécu de manière intense, de manière profonde, de manière sincère, de manière absolument pure, eh bien les sacrifices ne montent pas, ils restent. Quand le sacrifice est agréé de Dieu, rappelez-vous, Caïn et Abel, qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn ? Allô ? Vous connaissez votre Bible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Concrètement, simplement c'est marqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon ? Oui, mais comment ça s'est passé ? C'est physique, hein ? Dans le monde spirituel, il y a aussi le côté physique qui va avec, hein ? Tout est un, hein ? C'est pas... Voyez-vous, on n'est pas dans une spiritualité de type, nouvel âge, on sort de son corps, etc. Non, c'est physique. Vous savez, quand on fait un sacrifice, ce qui était le cas d'Abel, qu'est-ce qui se passe quand vous faites brûler des animaux ? Qu'est-ce qui se passe ? Pardon ? Oui ? Et qu'est-ce qui est visible ? Pardon. Ah ouais, c'est la fumée. La fumée, c'est la nuée. D'ailleurs, la nuée, elle a conduit le peuple dans le désert. C'est la nuée. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui monte vers Dieu. C'est l'encens. D'ailleurs, dans le lieu saint, il y avait l'encens. C'était quoi ? C'est la manifestation des prières, de l'intercession. Enfin, il y a tout un symbolique. Mais quand on connaît cette symbolique, on comprend mieux ce qui se passe dans la prière et l'importance de la prière, etc. Mais il y a des prières qui montent. Et des prières qui ne montent pas. Et les prières qui dépassent le plafond, comme on dit, il y en a qui ne dépassent pas le plafond. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que quand Dieu agrée une prière, quand Dieu agrée l'intercession, quand Dieu agrée le peuple de Dieu qui élève, il y a quelque chose qui monte. Et vous le sentez quand ça monte, non? Non, vous ne le sentez pas? Bah oui, mais vous voyez, c'est physique ce que je vous dis. Quand ça monte, ça veut dire que c'est agréable à Dieu. Voyez-vous? Et ce qui s'est passé avec Abel, c'est que la colonne de fumée est montée. Vous n'avez qu'à regarder dans le livre d'école du dimanche, vous les avez tous vus. Et avec Caïn, elle est restée en bas. Elle ne pouvait pas monter. Voyez-vous? C'est physique, c'est pour ça que je vous disais c'est physique. C'est que c'est accompagné d'une réalité physique. Parce que Dieu, quand il n'agrée pas, ben il le laisse à l'horizontale. D'ailleurs, c'est vrai aussi, j'évoquais dimanche d'avant, que pendant ces 400 ans d'interruption de la parole de Dieu, eh bien, c'est les hommes qui ont pris le relais avec la sagesse, avec la philosophie. C'est très important de comprendre ça en France, parce que nous, on est un pays qui avons... repris en fait ces pensées philosophiques de la Grèce et nous l'a hérité. D'ailleurs, des écrivains comme Michelet, par exemple, qui ont écrit sur la France au XIXe siècle, ils l'ont dit. Ils ont dit Athènes est venue à Paris. Voilà, c'est même des gens qui sont inconvertis, ils le savent, ils le voient. Vous voyez, parce que l'esprit d'Athènes est venu à Paris. Et d'ailleurs, vous allez au Palais Bourbon, ben vous avez Athéna, Minerve, qui est l'idole de la sagesse, qui trône, qui conduit la sagesse. La sagesse, d'ailleurs, vous savez qu'on est pratiquement le seul pays dans les écoles où on enseigne la philosophie avant le bac. Hein. Voilà, parce que la sagesse, c'est quelque chose qui est élevé au maximum, mais c'est une sagesse qui ne dépasse pas le plafond. Voyez-vous ? C'est une sagesse idolâtre, c'est une sagesse qu'on appelle immanente, c'est-à-dire qu'en soi, c'est des bonnes choses. Hein. Toutes les idoles, c'est des bonnes choses, sauf qu'elles sont poussées trop loin et elles ne sont pas connectées avec Dieu. La sagesse dont on parle, qui est d'ailleurs d'un proverbe 9, vous avez la sagesse de Dieu, la sagesse de la folie, eh bien, vous avez ces choses-là. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des choses qui sont bonnes. Voilà. Sauf qu'ils doivent être connectés à Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui inspire souvent les mêmes choses que ce que les hommes racontent. Mais c'est on compte sur Dieu, on compte sur la puissance de Dieu, on compte sur la grâce de Dieu. Voyez-vous, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est difficile à expliquer à un Français que c'est pas bon, parce qu'en fait c'est bon. Sauf que il faudrait qu'il se mette à genoux pour croire en Dieu et accepter le Seigneur. Mais essayez de parler à un Français, hein, de Dieu, mais il va regarder ses chaussures. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Je parle des Français de souche. Hein. On ne peut pas. C'est un problème civilisationnel. Parce qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu. On veut se débrouiller tout seul. Tout seul. Voilà. Et ça, c'est le problème numéro un de la France. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais c'est quelque chose qui est lié à la prophétie. C'est-à-dire que l'idolâtrie, Dieu, il casse les idoles sur la tête des gens. C'est dans un passage de Proverbe, il casse les idoles sur la tête. Et quand on veut s'en sortir tout seul, avec des idoles, eh bien, on est déçu. On est déçu. Et ça a été le cas du peuple d'Israël, hein, qui, dans Ézéchiel chapitre 8, eh bien, adorait les idoles dans le temple. Hein, vous voyez, les Juifs ne sont pas mieux que les chrétiens. Ils adoraient, ils avaient mis même des serpents à l'intérieur, dessiné des serpents dans le lieu très saint, etc. Et à l'extérieur, ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune, etc. Donc, c'est une tendance naturelle de l'être humain d'adorer les idoles, d'élever des idées qui sont rien. Parce que le soleil, la lune, ça n'a rien... de vivant. Hein. C'est simplement une matière qui, d'ailleurs, est en train de donner toute son énergie, qui va s'arrêter et qui est prévue de terminer dans un trou noir. Donc, le prophète Élie, il est là à chaque fois pour ramener, juger l'idolâtrie du peuple de Dieu, l'idolâtrie, et de restaurer, à condition qu'il y ait la repentance. Il faut passer par la repentance pour à nouveau être agréé de Dieu et que à nouveau l'encens puisse monter, qu'à nouveau la présence de Dieu puisse connecter avec nous. Et c'est pour ça que c'est un des tests, c'est le temps de louange et d'adoration qu'on va accélérer, en tout cas on va en avoir davantage dès la rentrée. Prophète, je ne reviens pas là-dessus, ça vient d'une racine qui est briller devant les gens, briller, c'est-à-dire d'être devant par la parole et par la sentinelle, par le fait qu'on est le rapporteur de Dieu, de ce que la pensée de Dieu. Et nous devons tous briller devant les gens. Bien sûr, Moïse a brillé tellement fort qu'il fallait qu'il se voile la face tellement il brillait de la présence de Dieu. Mais nous devons accéder à cette nature que le Seigneur brille au travers de nous et nous utilise pour transmettre sa parole à ceux qui sont en train de se perdre. La réussite de cette gouvernance du peuple, aussi bien Israël qu'aujourd'hui, et c'est dans la qualité et le respect de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, mais aussi de revenir au vrai culte. Le culte, et on verra ça dans le troisième chapitre, même dans le deuxième chapitre de Malachie. Malachie, c'est un prophète de sagesse, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu qui ramène le peuple aux fondamentaux de la parole. Dans Marc chapitre 1, verset 1, il est écrit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » C'est bien sûr de Jean-Baptiste dont il s'agit. Et qu'est-ce qu'il prêchait, Jean-Baptiste ?
Repentance.
Et Jésus, qu'est-ce qu'il prêchait ? Repentance. Jean-Baptiste prêchait la... Jean-Baptiste prêchait la... Et Jésus prêchait la... Voilà. La repentance, parce que le principal problème, notre problème, c'est le péché. Or, le péché, maintenant que Jésus est venu, lorsque Jean-Baptiste est venu, Jésus n'avait pas encore donné sa vie, mais il a... c'est pour ça qu'il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême en Jésus-Christ. Voyez-vous. À l'époque des apôtres, il y avait des gens qui étaient baptisés par Jean-Baptiste, des chrétiens, et qui n'avaient pas encore reçu le baptême de Jésus, et donc ils ont dû les rebaptiser en Christ. Parce qu'en fait, il faut être conscient que notre identité est en Christ. Sinon, nous ne sommes pas sauvés. Si nous ne sommes sauvés que par la repentance de Jean-Baptiste, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit en Christ, que notre nouvelle nature, eh bien, c'est celle de Christ. Il y a une substitution de nature qui doit s'opérer en nous pour être chrétien. C'est pour ça que le christianisme de masse, comme l'Église catholique, l'Église protestante, historique, etc., enfin, tout ce qu'on appelle le christianisme de masse, eh bien, c'est pas un christianisme. C'est une religion, mais c'est pas une relation avec le Seigneur qu'on octroie quand on passe par les eaux du baptême en témoignant de sa foi. Et on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Amen. Malachie a écrit ce livre donc dans une période où le temple a été restauré par Zorobabel, qui est venu parce qu'il était envoyé par l'empereur de Babylone. Il a créé le temple. Et donc, il y a eu les les Israélites qui sont rentrés dans le temple, donc qui ont commencé à nouveau servir Dieu. Et quelques années après, ils ont déjà terminé leur pratique, avant même que Esdras et Néhémie vont venir pour restaurer. Donc vous voyez, ça va très vite. Ça va très vite pour un peuple de s'accrocher, je dirais, à la foi, mais aussi vite pour le décrocher. C'est ce qui s'est passé au temps de Malachi. Plusieurs éléments permettent de le savoir, c'est Malachi 1.8, où il parle du gouverneur, donc c'est le gouverneur Zorobabel, à l'époque où il était. Je rappelle rapidement, pour que vous ayez bien en tête la structure du livre de Malachi, l'introduction, c'est le premier verset, l'Éternel parle. Et j'ai insisté dimanche dernier sur ce fait de parler, donc par des prophètes. Et donc Élie est un des prophètes qui est envoyé régulièrement, y compris Jean-Baptiste, y compris à la fin des temps, pour parler, mais en renvoyant quelque chose qui est éternel, c'est la loi. La loi ne change pas, il renvoie la loi. Et d'ailleurs Jésus lui-même dit, celui qui veut me suivre, et il doit pratiquer ma parole. Vous voyez, même en tant que chrétien, nous ne sommes pas sauvés comme ça une fois pour toutes. Nous sommes appelés à appliquer la parole. Et c'est le sens de ces deux images de la maison sur le sable et de la maison sur le roc. La maison sur le sable, bien sûr, quand il y a des flots qui arrivent, elle est emportée parce qu'elle n'est pas assise sur quelque chose de solide. Mais la maison sur le roc, l'interprétation habituelle que les chrétiens disent, c'est sur Jésus. Non, c'est sur la pratique de la parole. C'est la pratique de la parole. Celui qui pratique la parole, il va tenir. Voyez-vous. Jésus, c'est bien, mais Jésus nous renvoie à la parole. Il nous renvoie à pratiquer la parole. Lui-même, d'ailleurs, a pratiqué toute la parole. Il nous a montré l'exemple. Donc, l'Éternel parle. Et il faut écouter sa parole. Deuxièmement, le premier discours, on l'a vu en partie dimanche dernier, l'Éternel aime Israël. Il aime son peuple, il aime l'Église, il aime les chrétiens. Et ça, il ne faut jamais le mettre de côté. Le deuxième discours, nous commençons juste à le lire aujourd'hui, c'est l'Éternel dévoile les problèmes liés au culte. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai évoqué la notion du culte, qui doit être un culte où la bonne odeur monte, et qu'elle ne s'arrête pas au plafond, mais qu'elle dépasse le plafond, qu'elle va vers le Seigneur pour qu'il puisse l'agréer. Et on le sent quand il y a ce culte qui est apporté au Seigneur. Parce que l'Éternel mérite l'honneur dans le culte, et Dieu en veut aussi aux prêtres, ceux qui apportent les sacrifices, qui acceptent des sacrifices qui ne sont pas bons. Parce qu'il y a une corruption. Chez les hommes, il y a toujours une corruption. Soit par l'argent, soit par le passe-droit, etc. Partout, il y a la notion de corruption. Dans le troisième discours de Malachi, l'Éternel déplore l'infidélité, être infidèle, dans le chapitre 2, versets 10 à 16. Le quatrième discours, l'Éternel jugera avec justice. Et c'est là qu'on retrouve aussi le prophète Élie qui vient pour juger. Le cinquième discours, c'est l'Éternel récompense celui qui se repent. Donc la repentance, déjà, est dans Malachi, qui prédit effectivement la venue de Jean-Baptiste et de Jésus sur la repentance. Et enfin, le sixième discours qui termine le livre de Malachi, c'est l'Éternel se souvient de l'homme droit. On est toujours récompensé quand on est dans la droiture avec le Seigneur. Et il se souvient de Moïse, il se souvient d'Élie, qui étaient des hommes droits. Et nous devons être des hommes et des femmes qui sont droits dans nos bottes. Le premier discours, on va le lire ensemble, parce que c'est la parole de Dieu qui doit nous saisir. Oracle, donc celui qui parle de l'Éternel à Israël, par son prophète Malachi. Verset 2, donc c'est le premier discours. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? Ésaïe n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaïe. C'est fort, hein ? La haine pour Ésaïe, pour Dieu qui parle. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées qu'ils bâtissent et je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous dites, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu casse les idoles sur les idolâtres. Et là, c'est le cas. Édom, donc les descendants d'Ésaü, hein, qui ont hérité de cette nature d'Ésaü et qui sont reproduits régulièrement, eh bien, ils sont dans l'orgueil en disant « Mais non, on est une nation, on va se relever, etc. » Il dit « Ok, relevez-vous, mais je vais vous détruire. » Voyez-vous, quand on est Dieu contre nous, on est dans la malédiction. Et quand on est Dieu avec nous, on est dans la bénédiction. Est-ce que vous voulez la malédiction ou la bénédiction ? On veut tous être bénis, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Ce n'est pas juste parce qu'on a envie d'être béni, c'est parce qu'il faut respecter les conditions de la bénédiction. Voyez-vous, Édom est juste en dessous d'Israël, en partie sur la Jordanie, en partie sur Israël, hein, c'était à l'époque hein, de Malachie. Donc Édom, c'était... Et vous voyez, ils sont placés stratégiquement. Quand ils sont venus de l'Égypte, ils ont dû passer par Édom. Par Édom, pour rentrer dans le pays, puisqu'ils sont rentrés par Jéricho. Jéricho est juste en dessous, là. Ouais. Et c'est les Édomites qui leur ont posé le plus de problèmes. D'ailleurs, même Balak, qui est de ce pays-là, il a demandé à Balaam de maudire Israël. De maudire Israël. Parce qu'il savait que s'il était maudit par Dieu, il avait la victoire. Voyez-vous ? Donc, c'est un pays de méchanceté. Un pays de méchanceté. Et ça illustre pour nous, spirituellement, que l'ennemi est toujours contre nous. Si nous voulons avancer, si nous voulons entrer dans le pays de la promesse, si nous voulons être rayonnants de sa gloire et de son amour, eh bien l'ennemi va tout faire pour nous arrêter, au travers des Édomites qui illustraient cela à l'époque. Mais Dieu a dit... Si vous construisez, je vais vous détruire. Donc, ils ne sont pas dans la malédiction. Il y a un temps où ils étaient bénis, mais pas pour toujours. C'est pour ça que Dieu éprouve notre foi. Nous ne voyons pas tout de suite toujours la bénédiction, mais il veut notre fidélité. Et c'est lui qui assure la bénédiction. Dans Zacharie, chapitre 9, verset 1er, il est dit « Oracle ». Parole de l'Éternel sur le pays du Hadrach. Elle s'arrête sur Damas, car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. Elle s'arrête aussi sur Hamath et la frontière de Damas, sur Tyr et Sidon, malgré toute leur sagesse. Vous vous rappelez Tyr et Sidon, ils sont au-dessus là. C'est eux qui sont, ils étaient très riches hein, parce que ils vendaient énormément, les cèdres, des choses énormes sur toute la Méditerranée. Donc, ils étaient très riches. Et ils étaient dans l'orgueil et dans la sagesse. Hein. Un peu comme actuellement, les Français sont dans la sagesse. Ils pensent voilà, que tout va leur réussir. Tyr s'est bâti une forteresse. Elle a amassé l'argent comme la poussière et l'or comme la boue des rues. Vous vous rendez compte ? Si vous avez de l'or qui coule comme la boue des rues, donc vous voyez, c'est vraiment la richesse incroyable de Tyr. Voici le Seigneur s'en emparera. Le Seigneur s'emparera de cet or qui a été amassé par Tyr. Et il précipitera sa puissance dans la mer et elle sera consumée par le feu. Vous savez, la richesse, etc., ça n'a qu'un temps. Si on n'a pas le Seigneur avec nous, tout ça, ça ne sert à rien du tout, parce qu'elle sera consumée. Et Tyr a été évacué de la carte. Vous savez que Jézabel venait de Tyr, hein, et son papa, Et-Baal, c'était celui qui était le sacrificateur de Baal. Verset 5, « Escalon le verra, et elle sera dans la crainte. Gaza aussi, et un violent tremblement le saisira. Écran aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza. » C'est étonnant, parce que Gaza, c'est au centre de l'actualité actuellement. « Le roi disparaîtra de Gaza, et Ascalon ne sera plus habité. L'étranger s'établira dans Asdod, et j'abattrai l'orgueil des Philistins. » Les Philistins, c'est ceux qui sont le long de la mer, hein, qui sont actuellement dans cette population de Gaza. Vous savez, la réussite ne dure qu'un temps. Quand on n'est pas sur le Seigneur, tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Donc, ne cherchons pas la réussite, la prospérité. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Amen. Dieu pourvoit à nos besoins. Et nous n'avons pas besoin de plus. Par contre, si quelqu'un a un don pour gérer les richesses, pourquoi pas? Dieu le donne, mais c'est différent. C'est l'exercice d'un don. Ce n'est pas la recherche de richesse. Vous voyez, parce que sinon, ça devient une idole. Donc, Dieu parle. Dieu parle et il juge ces nations. Nous aussi, voyez-vous, nous avons... parce que ce que j'ai dit la dernière fois, je ne reviens pas forcément sur tout ce que je vous ai raconté, mais Dieu, pour expliquer son point de vue, il prend les deux jumeaux, Ésaü, justement, et Jacob. Il prend cette image pour montrer pourquoi Dieu a de la haine pour Ésaü et pourquoi il aime Jacob. C'est étonnant, parce qu'en fait, c'est arrivé dès leur sortie du ventre de leur mère. Pourquoi? Parce que Dieu connaît toutes choses. Il voit l'avenir, il voit le passé, il voit l'avenir, il voit le présent, il n'est pas dans le temps. Donc Dieu voit toutes choses. Et donc il a aimé Jacob parce qu'il savait que Jacob était quoi? Pourquoi est-ce qu'il a aimé Jacob? Et pourquoi il a haï Ésaü? Je vous l'ai dit le dimanche dernier, mais comme quoi c'est bien de revenir dessus, vous voyez. Des fois je me dis, bon, il faut passer à autre chose. Ben non, il faut passer à autre chose à partir du moment où les choses sont intégrées, les choses fondamentales. Il y en a quelqu'un qui se rappelle? Pourquoi Dieu, qui est un Dieu de bonté, il a de la haine pour Ésaü? Bila, tu as peut-être la réponse. Non? Alors, il y a l'obéissance à quelque chose. Il faut rajouter obéissance à quelque chose. Pardon? En fait, c'est très simple. Vous savez, la Bible, c'est très simple quand on ne veut pas essayer de compliquer les choses. Dieu aime les gens qui aiment la même chose que lui. Pardon? Et Dieu haït les gens qui n'aiment pas qui n'aiment pas les choses de lui. C'est tout simple. C'est comme vous. Vous, vous aimez bien les gens qui sont d'accord avec vous, non? Est-ce que vous aimez les gens qui vous insultent, qui sont contre vous, qui sont vos ennemis? Ben non. Ben Dieu, c'est pareil. Vous voyez, il faut simplifier nos réflexions sur les choses. Or, qu'est-ce que Ésaü a fait et qu'est-ce que Jacob a fait? A fait. Donc, pas pensé, fait, plus tard. Ça s'est révélé, si vous voulez, ce qui était en prémisse dans le ventre de la mère qui a accouché, il y avait déjà cette disposition, si vous voulez, d'Ésaü et de Jacob. Mais c'est quoi cette disposition? Tout à l'heure, je vous ai lu un passage en disant que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce que tu es un violent ce matin? C'est la question qu'il faut se poser. Si nous ne sommes pas violents, mes amis, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le règne, le royaume, c'est le règne aujourd'hui. Il faut rentrer par la violence. Et c'est quoi cette violence? Ben c'est ça, c'est Jacob et Ésaü. Quelle est la violence de Jacob? Puisque lui, il a été aimé de Dieu. Il a manifesté de la violence. Alors que Ésaü ne l'a pas fait. Commencez à être sur la piste. Alors, Elisabeth, je crois que tu as la réponse. Voilà, tout à fait. Mais quelle est la motivation? Parce que Dieu connaît nos motivations. Voilà. Voilà. C'est parce que Jacob a voulu la bénédiction de Dieu parce qu'il a aimé le peuple d'Israël. Parce que Dieu a aimé Israël, puisqu'il a appelé Israël, il a appelé Abraham, Isaac, Jacob, non? C'est toute la descendance des patriarches. Et ensuite, après Joseph, après Moïse, etc. Il a aimé un peuple qu'il a voulu pour sa gloire. C'est ça son plan. Pour ceux qui sont pour son plan, Dieu aime ceux qui sont pour son plan. Est-ce que tu es pour le plan du Seigneur? Est-ce que tu es pour le plan du Seigneur ici à Élisabethville? C'est tout l'enjeu. Hein. L'Église ici, elle n'est pas là par hasard. Elle est parce qu'il y a un dessein. Il y a un plan. Vous croyez au plan de Dieu? Ah ben, il faut le concrétiser. Moi, je crois que Dieu a un plan ici. Pas à Chicago, à New York, tout ça. Bien sûr, c'est à ces églises-là de les discerner. Ou en Afrique, etc. Voyez-vous, notre job, je dirais, notre état d'esprit, c'est de chercher la volonté de Dieu ici et maintenant pour nous. Amen. C'est ça. Et tout l'enjeu de cette église, c'est ça. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là, je dirais, ils sont haïs de Dieu, parce que Dieu ne peut rien faire, puisqu'ils ne vont pas aller dans le sens de ce que Dieu veut faire. Jacob est allé dans le sens. Or, pourtant, il était tordu, hein, Jacob. Hein. Il était tordu. Hein. Oui. Mais Dieu ne regarde pas aux gens qui sont tordus dans la mesure où il peut les reprendre et les redresser. Il y a souvent, d'ailleurs, des hommes de Dieu, de très grande ampleur, qui avaient des vies dissolues avant leur conversion, mais Dieu les a changés et les a transformés, à condition qu'on se laisse transformer. C'est tout le problème de l'obéissance dont tu parlais tout à l'heure, Elisabeth. Est-ce que je suis prêt à obéir au Seigneur, même si ça me coûte? Même si ça me coûte dans mon caractère, dans ma façon de penser, etc. C'est ça la violence. La violence dont il est question. C'est dire, Seigneur, quoi qu'il en coûte, je veux te suivre. Quoi qu'il en coûte, je veux te servir. Quoi qu'il en coûte, je veux... Révèle-moi. Et une fois que la révélation est là, attention, il faut obéir. Hein? C'est-à-dire qu'on est responsable, on devient responsable. Alors, vous commencez à voir un peu mieux. Donc pour revenir à Jacob et Ésaü, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob s'est battu pour avoir le droit d'aînesse. Parce qu'il y avait un droit qui était attaché au premier-né. Et lui n'était pas le premier-né. Donc il s'est battu. Donc il est allé dans le sens où Dieu a vu qu'il allait dans le sens de Dieu. Or, Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait avec son plat de lentilles? Voilà, il préférait son ventre, il préférait son confort, il préférait... Voilà, de ce qui voilà le confort d'une vie. Si nous, en tant que chrétiens, nous préférons notre confort, pourquoi pas? Dieu ne va pas nous en vouloir. Mais on ne peut rien faire avec nous. Il ne peut rien faire avec nous. Je vois Bila qui sourit là. C'est vrai?
La maman a pris une part de responsabilité.
Pardon?
Rebecca.
Oui, mais là, je n'entre pas dans l'étude biblique de Rebecca, etc. C'est un autre sujet. Mais là, il est dit que Dieu a haï Ésaü. Et il faut trouver la raison. Et la raison, c'est parce que Ésaü est devenu méchant. Il le traite de nation méchante, parce qu'il a tout fait pour détruire Israël. Et d'ailleurs, même dans le passage, on l'a vu, il veut détruire Israël. Mais Dieu laisse les choses jusqu'à un certain point. Ils peuvent détruire, mais à un moment donné, quand Dieu dit stop, c'est stop. Et là, l'exemple que la parole de Dieu prend pour expliquer l'état dans lequel était le peuple avec Malachi, c'est qu'en fait, il disait, mais en quoi Dieu nous a aimés ? Il ne savait même pas en quoi il nous a aimés. Donc si on ne sait pas en quoi il nous a aimés, ah bah, c'est foutu. Hein ? Je veux dire, on ne peut pas avoir la foi. La foi, c'est de croire ce que Dieu nous dit et de croire ce que Dieu pense pour nous. Et ici, Jacob, il a cru que Dieu aimait Israël. Il a tout fait pour hériter d'Israël. Il s'est même battu avec Dieu. Hein, s'appelle au torrent de Jacob. Il s'est battu toute une nuit avec Dieu. Et il a été vainqueur de Dieu. Il s'appelle Nika. Oui, il a été vainqueur. Vainqueur. Dieu lui a cassé l'arrière de la jambe parce qu'il était tellement, tellement fort, tellement décidé. Voyez-vous, c'est ça la décision, la violence. Non ? Ça vous parle ? C'est ça la violence d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. C'est dire, Seigneur, quoi que ça me coûte, je te suivrai. Quoi que ça me coûte, je vais faire ta volonté. Quoi, c'était Jésus. Jésus est allé jusqu'à des grumeaux de sang avant de donner sa vie, tellement c'était dur pour lui. Il nous a montré l'exemple de la violence pour entrer dans le plan de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, mes amis. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas. Et c'est pour ça qu'il y a un combat entre ceux qui veulent suivre leur confort, ceux qui veulent profiter de la vie, etc. Bon, ok, ils auront profité, mais ils ne rentrent pas dans le plan de Dieu. Et Dieu veut qu'on rentre dans ce plan. Et c'est pourquoi, mes amis, moi je regarde un peu les temps de prière, et j'espère que de plus en plus toute l'Église va se mettre en prière. Parce que la prière, c'est une absence de confort. C'est dire, je me bats pour le royaume de Dieu. Rappelez-vous, Jean Hugues, qui est venu... Qu'est-ce qu'il a dit sur la prière ? Vous vous rappelez ? Vous savez, il faut se rappeler des messages que le Seigneur nous donne. Soyez comme les Béréens, écrivez, je vois qu'il y a des gens qui écrivent et tout ça, pour se rappeler, pour se souvenir. Il a dit, mes amis, la prière et l'intercession, c'est un combat. C'est pas facile. Donc, essayez de vous lever tous les matins, vous allez voir, vous allez vous endormir, c'est pas facile. Ouais, il y a des gens qui hochent la tête parce qu'ils le savent. Mais il y en a qui ne le savent pas. Parce qu'ils n'essayent pas. La prière est un combat. Un combat, mes amis. Et quand l'Église combat, il y a des victoires. Et quand l'Église combat pas, il y a des défaites. Alors ? C'est aussi simple que ça. Jacob a combattu pour avoir ce droit de faire, d'entrer dans le plan de Dieu pour être un père sur Israël. Et d'ailleurs, Dieu a changé son nom de Jacob. Il l'a nommé Israël, le vainqueur de Dieu. Israël. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des Israël ce matin ? Ou qui veulent être des Ésaü ? Ah, Ésaü, il a profité de la vie. Hein. Pendant que Israël a été déporté, Édom vivait bien. Hein. Vivait bien. Il s'est enrichi, tout ça. Et ça dure un temps. Mais après, le Seigneur a dit, même s'ils reconstruisent, je vais les détruire. Si on n'a pas la bénédiction de Dieu avec nous, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien, d'un point de vue d'un serviteur de Dieu. Mais là, je n'ai pas le temps de continuer mon message, parce que l'heure est arrivée pour le finir. Mais vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent profiter de la vie, et ils veulent profiter des deux. C'est ce qu'on appelle des chrétiens qui clochent des deux côtés. Ils ont un pied sur le trottoir et un pied sur la chaussée. Voilà. Mais où on est sur le trottoir, où on est dans la chaussée, c'est beaucoup plus facile pour marcher. Et ça s'appelle des chrétiens tièdes. Et qu'est-ce que Dieu fait des chrétiens tièdes ? Vous connaissez la réponse ? Oui. Dieu veut des chrétiens bouillants. Parce que les chrétiens qui sont froids, ils ont une chance de se rendre compte qu'ils sont froids. Les chrétiens tièdes, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils veulent profiter des deux. Et donc il y a un déni, etc., etc. Non, mes amis, je vous encourage à être bouillant pour le Seigneur, à lui demander d'être bouillant. Parce que c'est une grâce. Si on devient bouillant, par la grâce de Dieu, pour rentrer dans ses plans à lui. Jacob est rentré dans ses plans. Et il a continué l'œuvre que Dieu a commencée. Il a donné bien naissance à 12 fils, etc. Vous connaissez la suite. Jacob a été un héros de la foi. Eh bien, le Seigneur veut que nous soyons des héros de la foi aujourd'hui, dans le temps présent. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Et je peux vous dire que si cette église, elle est là, c'est parce que nous sommes dans un plan que Dieu veut bénir. Voyez-vous, c'est étonnant que Aubergenville a été choisi au XVIe siècle pour être une bénédiction. Et Épône, qui est juste à côté, a été choisi pour être un lieu maçonnique, franc-maçon. D'ailleurs, dans les gazettes que vous avez, ils parlent sans arrêt du temple maçonnique d'Épône, où ils ont écrit la Constitution, ils ont écrit la Ve République, régulièrement, voilà, c'est un lieu, voilà. Et nous, on était envahis par des francs-maçons, bon, et je sais qui ils sont ici, hein. C'est un nid, voilà. Mais à côté de ça, il y a un endroit béni, un endroit qui a obéi à Dieu, un endroit qui a souffert depuis 450 ans. Et le Seigneur veut que nous puissions relever ce défi. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à relever ce défi? Est-ce qu'il y en a qui veulent relever ce défi? Ça s'appelle la vision du phare de la ville refuge. Et c'est ce que je porte, c'est ce qu'on porte de plus en plus dans l'Église, et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, mes amis. Et nous allons rentrer dans cette dimension par la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, te prions afin que ta parole puisse faire son effet dans chacun de nos cœurs. Seigneur, cette parole de Malachie qui est éternelle, Seigneur, parce qu'elle s'applique à tous les moments de l'histoire, Seigneur, elle a été vraie à l'époque où elle a été donnée, mais à toutes les époques, Seigneur, d'un reste que tu appelles à te suivre, Seigneur. Et ce reste, nous savons que c'est nous aussi, ici, dans cette ville, que nous voulons rétablir, Seigneur, comme ville refuge. Dans ces temps troublés, dans ces temps où, Seigneur, ta parole est malmenée, nous voulons, Seigneur, être fidèles à ta parole. Et nous te remercions pour tous les chrétiens et les non-chrétiens que tu envoies dans cette église, pour qu'ils puissent nous rejoindre, pour combattre le bon combat de la foi. Et Seigneur, entrer dans tes plans, comme Jacob est entré dans tes plans, et que tu as béni. Seigneur, nous te prions, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.